RFI. Grand reportage.
On doit convaincre les candidats. Aujourd'hui, on doit convaincre les candidats qui ont pléthore d'opportunités sur le marché.
Le chômage a baissé ces dernières années en France, mais avec un taux à 7,4%, l'Hexagone ne flirte pas encore avec le plein emploi. Pourtant, dans certains secteurs d'activité, le marché de l'emploi est tendu. Chauffeurs, chaudronniers, aides à domicile ou encore ingénieurs, de nombreux métiers peinent à recruter. Un chiffre, l'an dernier, 44% des employeurs anticipaient des difficultés au moment du recrutement, à tel point que certains commencent à changer leurs pratiques. Pénurie de main-d'œuvre en France, quand la balle change de camp, c'est un grand reportage de Paul Inglès.
Alors, ce que je vous propose, c'est de... Est-ce que vous avez un CV avec vous? Oui. Oh, bien, génial. Est-ce que je peux le consulter, je vous prie?
Dans ce salon Jeunes d'avenir à Paris, centres de formation et employeurs cherchent à garnir leur rang. Sur le stand du groupe Accor, des représentants de plusieurs hôtels glanent des CV à la recherche de perles de plus en plus rares. Alba Michel, chargée de ressources humaines dans un établissement de luxe, a 18 postes à pourvoir.
Il y a certains postes qui sont ouverts depuis un certain temps, où il y a urgence. C'est surtout pour pouvoir soulager nos équipes.
Et la concurrence n'est pas loin. Un collègue d'un hôtel parisien du même groupe, Gabriel Psibilek, cherche lui aussi de nouvelles recrues. Recherche plus réduite, mais pas moins ardue.
J'ai recherché deux réceptionnistes. Et j'ai reçu en tout et pour tout que deux CV de personnes qui n'ont pas voulu finalement donner suite au recrutement.
Donc aujourd'hui, c'est opération séduction là.
Exactement, tout à fait, c'est opération de séduction, pas que pour mon hôtel, pour tous les hôtels.
Elle vient d'où cette difficulté à recruter c'est, en l'occurrence, c'est de réceptionnistes depuis 5-6 mois.
Alors moi, je pense que c'est lié dans un premier temps aux conditions de travail qui ne sont pas les mêmes que dans beaucoup d'autres emplois, avec des horaires en décalé, de travail le week-end, les jours fériés. La période après Covid, les gens ils ont plutôt envie justement d'avoir du temps avec leur famille, avec leurs proches. Avant, on passait notre temps à trier les CV parce qu'on en avait beaucoup trop. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on passe notre temps à chercher des candidats. Malheureusement, dans l'hôtel et restauration, c'est beaucoup de PME pour 90% qui n'ont pas forcément les moyens de faire plus niveau salaire. Donc le vrai levier d'action, ce sera plutôt sur les conditions de travail qu'il faut améliorer en mon sens.
Qu'est-ce que vous proposez désormais?
Oui, alors on travaille sur les plannings surtout. Sur les jours de repos, alors auparavant, c'était des plannings qui étaient très tournants. On avait notre planning seulement une semaine à l'avance. Et aujourd'hui, on travaille sur au moins un mois à l'avance.
Dans les allées du salon, beaucoup d'étudiants en quête d'une place en alternance et quelques demandeurs d'emploi, voire des chargés d'insertion professionnelle comme Seod Ounio de l'association Solidarité et Jalon pour le travail, à qui les tensions sur le marché de l'emploi n'ont pas échappé.
J'ai un groupe de jeunes ukrainiens. Donc avant de nous rendre au salon, on a déjà ciblé un peu les secteurs dans le besoin.
Alors ces secteurs en tension, quels sont-ils? Catherine Griot, conseillère entreprise à Pôle emploi, l'agence française pour le travail, en a identifié 8.
Les plus gros secteurs, c'est le BTP, l'hôtellerie-restauration, la sécurité, qui n'était pas un secteur en tension au préalable, le commerce, l'industrie.
Comment ça se passe à Pôle emploi pour justement accompagner et essayer de faire matcher demande et offre?
On va travailler sur le profil de compétences et aujourd'hui, les compétences, ce n'est pas seulement les savoirs techniques, mais aussi c'est les savoir-être et les savoir-faire. Le deuxième point, ce qui est important, c'est les formations, bien entendu. Il y a beaucoup de formations proposées sur ces secteurs en tension. Dès que l'offre d'emploi est publiée sur le site Pôle emploi, on va prévenir l'employeur des difficultés éventuelles qu'il peut rencontrer, que ce soit lié au profil des candidats, que ce soit lié au poste qu'il propose, et justement mettre en exergue tout de suite, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de candidats? Est-ce que le poste n'est pas attractif de par le salaire ou de par l'entreprise? Quelquefois, c'est l'image de l'entreprise. Donc on va travailler dès en amont avec l'entreprise pour que son offre soit la plus attractive possible et qu'on puisse trouver les candidats qui correspondent. Et aujourd'hui, effectivement, on a vraiment réduit le temps de parution des offres d'emploi.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur?
Je cherche pas, ouais.
C'est quoi votre métier?
Je fais une terrasse.
Pardon?
Je suis terrassé.
Terrassé?
T'as la carte BTP, comme ça je te recherche directement sur le carte d'identité.
Parmi les métiers en tension, donc, ceux de la construction, en juillet, 61% des entreprises du bâtiment déclaraient rencontrer des difficultés.
Tiens, au courant s'il y a un truc? C'était 750 la semaine?
Ouais, 740, ouais.
Ok.
Moi, tu veux pas.
Ces difficultés, Leslie Peter, responsable d'une agence d'intérim spécialisée dans le BTP, les connaît bien.
La pénurie, elle est là parce que les profils sont de plus en plus compliqués, niveau même salaire. Les intérimaires demandent beaucoup. Vous avez pu entendre à l'accueil, pour 35 heures, il veut 750 la semaine. Il y a une grosse concurrence aujourd'hui avec les chantiers du Grand Paris. Il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas autant de bons personnels disponibles qualifiés. D'où cette pénurie de recrutés. Les gars sont exigeants, les gars choisissent, les gars ont des demandes qu'on n'arrive pas forcément à servir.
Ces tensions sur le marché de l'emploi, même si certains font état d'un ralentissement des demandes, permettent à Kamagaté, Bamanga et Babadou Kouré de travailler de manière continue ou presque.
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté, sauf la période de la Covid. Non, après ça, j'ai toujours eu du boulot jusqu'à aujourd'hui. Je continue jusqu'à ce que le chantier finisse ou soit à ce que... on n'a plus besoin. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je passe voir la boîte d'intérim. Et le lendemain, c'est relancé encore pour un autre chantier.
Moi, ça fait même pas 3 jours que je ne travaille pas. À ce moment, c'est calme, mais je sais que je vais trouver le travail. Parce que je n'ai jamais resté à la maison pendant 1 semaine ou 2 semaines. Tout ce que je trouve pour le stade, je prends. Sans condition. Mais après, le salaire, si c'est en bas, je ne prends pas. Parce que je suis diplômé. Voilà, ça aussi, il faut que je dise la vérité.
Ouais, donc là, en novembre, elle est plus bonne. C'est tout ça.
Les entreprises avec lesquelles vous êtes en contact, est-ce qu'elles peuvent faire des efforts ?
Elles vont être conscientes en acceptant qu'on leur propose des qualifications plus basses. Ils sont prêts à perdre du temps pour les former.
Qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre travail ?
C'est pareil, peut-être plus de temps pour négocier. Parce que quand on a un bon gars où on sait qu'il vaut la somme qu'il nous demande, on sait qu'il va être aussi demandé par les concurrents. Et c'est négocier pour qu'il soit avec nous et qu'il n'aille pas dans une autre agence d'intérim. C'est plus ça qui est un peu plus dur, voilà.
Pour séduire de nouvelles recrues, certaines agences d'intérim, certaines entreprises mènent des opérations de recrutement plutôt inhabituelles. Il manquait à la fin de l'été, selon Force Ouvrière, environ 80 000 chauffeurs de camions de marchandises et plusieurs milliers de conducteurs de bus. Alors à Vannes, en Bretagne, un petit salon pour l'emploi autour de l'entreprise de transport en commun Transdev s'est installé dans un quartier résidentiel.
Allez, on va monter au droit. On monte le plus droit possible. Encore, et là on commence à tourner.
Ambiance jeux vidéo dans un bus de l'entreprise spécialement aménagé. Candidat motivé ou simple curieux, c'est à la conduite de bus sur un simulateur sous l'œil attentif de formateurs.
Comment ça se passe depuis ce matin ?
Très bien, les gens s'intéressent donc au métier et essayent de découvrir un peu la particularité du métier.
Il n'y a pas trop de casse ?
Non, ça va. Là, ce matin, c'est bien.
Cela ne fait pas mouche à tous les coups.
Non, effectivement, ce ne sera pas mon domaine de métier.
Mais le test est parfois concluant.
À la base, moi, je suis intéressé par permis poids lourd. Je n'avais jamais trop pensé au chauffeur de bus. Ça m'a permis de voir à peu près comment ça fonctionne, quoi, le travail de pilote avec le simulateur.
Vous pensez que vous allez concrétiser et déposer une candidature ou pas ?
Peut-être, ouais, sûrement. Ça m'a donné envie.
Ce jour-là, le directeur régional de Transdev dans l'ouest de la France a quelques dizaines de postes à pourvoir. La crise sanitaire a enrayé la machine des recrutements. Et même s'il commence à recevoir davantage de candidatures, Gilda Lagadeg mise sur les opérations arrêt demandé pour l'emploi.
C'est pour démontrer à l'ensemble des candidats et candidates toutes les qualités du métier, mais aussi la diversité des profils que l'on recherche. Il est essentiel pour nous d'avoir des candidats qui soient les plus divers possibles et de révéler des talents parmi ceux qui, des fois, pouvaient imaginer qu'ils n'étaient pas dédiés à des métiers, en particulier sur les questions de genre.
Est-ce que les recruteurs recrutent différemment ?
Oui, on a fortement évolué et il faudra évoluer encore dans les années à venir. Le recrutement ne peut plus être passif sur réception de candidatures ou avec, on va dire, un peu de communication institutionnelle. On doit vraiment aller quasiment faire du marketing direct, hein, c'est-à-dire d'aller au plus près des vocations. C'est évident que les modes de recrutement demain seront beaucoup plus sur le terrain, seront pour partie aussi davantage digitaux.
Alors bienvenue dans le Ludobus. Durant ce jeu, on va vous faire incarner un rôle. Vous allez jouer le rôle de patron d'entreprise.
Peu conventionnel, l'autre méthode déployée par Transdev ce jour-là, l'entreprise a recours à un escape game.
C'est parti le jeu et allez voir un petit peu quel coffre vous pouvez ouvrir.
Un jeu d'évasion au cours duquel les candidats sont observés par l'équipe de rendez-vous nomade, leur prima et son associé.
Nous, ce qu'on leur offre, c'est quand ils vont jouer, on va repérer toutes leurs compétences transversales, leurs atouts, leurs talents. Et du coup, on va en faire un passeport compétences qui va être un lien avec l'entreprise quand elle va commencer à parler de ses métiers, etc.
Comment ça vous est venu de faire un escape game pour recruter ?
En fait, c'est une rencontre entre donc Mathilde et moi. Et je lui parle anodinement des 15 compétences pour lesquelles le ministère du Travail dit « si on a ces compétences transversales, on trouve du travail » parce qu'en fait, c'est des compétences qui se retrouvent dans tous les métiers. Et quand je lui cite, elle écarquille les yeux, elle me dit « mais c'est exactement les compétences qu'il faut pour gagner un escape game ». Donc ça a fait tilt. Et quand on fait un retour des compétences à la fin aux personnes, elles sont heureuses d'entendre d'inconnus les atouts qu'elles ont mis pour faire gagner l'équipe. C'est important pour la confiance en soi et la valorisation de soi.
Je suis créative, attentive aux autres, j'aime faire plaisir, je n'hésite pas à recommencer quand je ne suis pas content de moi.
Ah bah c'est
pour les positionner.
Qu'est-ce que vous regardez précisément ?
Donc déjà, un escape game, c'est collaboratif. Donc c'est ma capacité, en effet, à travailler en équipe.
Vous faites ça pour d'autres entreprises ?
Alors ça fait 4 ans qu'on existe et notre outil plaît de plus en plus parce que de plus en plus d'entreprises veulent recruter autrement et ouvrir les typologies de public qui viennent vers eux. Donc voudraient que des personnes très différentes s'intéressent à leur métier et non pas ceux qui ont fait telle ou telle formation.
D'accord. Voilà, là il y a des petits jeux qui sont proposés. Paire, consonne, impair, voyelle. Donc on doit déterminer où sont les paires, où sont les consonnes, où sont les voyelles. Et la dimension vitesse aussi.
Et Sophie Chacron, directrice des ressources humaines régionales chez Transdev, a encore un tour dans son sac pour recruter son CV.
Aujourd'hui, on est venu avec une expérimentation complémentaire via Gochaba, qui est une application qui permet en fait de recruter là aussi son CV et de s'appuyer sur des connaissances et des compétences cognitives. Pour vous donner un exemple concret, ça va être ma capacité, par exemple, à me représenter dans l'espace. Ben, quand on est conductrice, conducteur, c'est un point qui est aussi important.
Aujourd'hui, il faut que vous convainquiez les candidats autant qu'eux doivent vous convaincre ?
On doit convaincre les candidats. Aujourd'hui, on doit convaincre les candidats qui ont pléthore d'opportunités sur le marché.
Alors, pour séduire et fidéliser, un recrutement ludique ne suffit pas forcément.
On travaille bien évidemment sur la rémunération. Je prends l'exemple ici en Bretagne, où les salaires augmenteront de 6% en 2022. C'est quand même un levier qui n'a jamais été exercé sur les 30 dernières années. Et puis, aussi une question managériale assez sensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur un management de proximité beaucoup plus fort, beaucoup plus interactif.
6%, un peu plus que l'inflation prévue pour 2022.
Je dirais que ce n'est pas le salaire qui peut représenter un frein. Ce qui peut représenter un frein, c'est le temps de travail qu'on peut proposer. On voit de plus en plus de personnes qui veulent maîtriser, on va dire, un peu leur emploi du temps. Voilà, qui vont faire des choix d'entreprise d'une part par rapport à un environnement métier, par rapport au sens que ça peut représenter, et qui veulent un peu avoir aussi la maîtrise, voilà, de leur emploi du temps, et qui sont moins dans une logique de carrière à l'intérieur d'une entreprise, mais plutôt dans une logique d'agrégation, on va dire, d'expérience, dans laquelle ils se projettent, qui a du sens pour eux.
La maîtrise de l'emploi du temps, c'est quelque chose que vous pouvez adapter ou c'est compliqué?
Alors, on a des contraintes, hein. On a des temps de prise de service, des temps de service, des temps de coupure. Néanmoins, pour répondre à cette attente du mieux avant, on travaille aujourd'hui sur des partenariats. Vous pouvez imaginer le transport de voyageurs en complémentarité, par exemple, avec la restauration collective. Transport de voyageurs qui emmène des enfants à l'école ou sur un lycée, et puis dans le lycée qui va préparer des repas, qui va reprendre son service. Voilà. On essaie de travailler ces formats-là aussi parce qu'on sait que ça répond à une attente forte.
Un manque de personnel sur les routes et sur les rails, à tel point qu'il existe en France une association pour promouvoir les métiers du ferroviaire. Retour au salon Jeunes d'avenir, sur le stand de Futur en train, Ouria Abchi essaie de déconstruire les préjugés.
Le secteur ferroviaire a pâti d'un déficit de notoriété. L'orientation qui a été prise, je dirais plutôt nationale, de désindustrialiser le pays et donc de ne pas favoriser le recrutement ou l'entrée dans des filières techniques fait qu'aujourd'hui, on a moins de ressources. Donc ce sont des ressources précieuses et donc ils ont le choix. Évidemment, ils vont aller au mieux offrant. Il faut savoir vendre sa marque employeur et ça, c'est le jeu de nos entreprises, elles le font toutes. Il faut également valoriser ce secteur qui n'est pas un secteur négligeable.
Faute de candidats au CV parfait en quantité suffisante, certaines entreprises ont créé leurs propres écoles sous des formes variées. SNCF Réseau dispose depuis longtemps d'unités de formation et l'entreprise a récemment regroupé ses sites dans 3 grands centres, dont celui de Lyon.
On est sur un site qui a ouvert ici le 9 mai 2022. Je vais vous montrer tout ça.
Philippe Gailloux, le directeur de ce campus, fait visiter fièrement les installations où peuvent être dispensées 60 000 journées de formation par an. Les deux tiers à de nouvelles recrues.
Ce site n'a pas pour but de faciliter le recrutement, mais de mieux former et donc de fidéliser nos agents.
Préparation de l'aiguille 173.
Donc là, maintenant, on va aller tracer notre itinéraire. Les règles avant d'utiliser une application de sécurité simple. Je vérifie déjà quelle est la direction qui est donnée.
Une petite salle dans la pénombre, l'une des pépites du centre. Un formateur, casque de réalité virtuelle sur la tête, manette de jeu vidéo à la main, nous fait une démonstration, une manœuvre sur des voies, comme s'il y était.
Derrière, je la manipule, je viens de toucher quelque chose, je ne sais pas quoi. Là, toujours pareil, pensez à sa sécurité, qu'il n'y ait aucune circulation qui arrive vers moi.
Bien sûr, ça ne se substitue pas à la pratique terrain. Ça plaît beaucoup à nos stagiaires. Parce qu'on est dans un univers serious game, réalité virtuelle, on est au 21e siècle.
Ça compte aussi dans le recrutement, quand on parle du centre de formation.
Oui. Et ça compte également dans l'image qu'ils se font de l'entreprise. On n'est plus sur l'entreprise ferroviaire du temps de la vapeur. On est sur l'entreprise ferroviaire qui permet de former à partir d'outils modernes, ce qui attire aujourd'hui les nouvelles générations. Et ce qui est extrêmement plaisant, c'est que, je vous disais qu'on avait à peu près un tiers de formation continue, ça attire également les anciennes générations. Donc il y a le côté attrait, mais le côté aussi... Et je conserve mes recrues parce qu'on les forme avec des outils qui leur parlent.
Confirmation auprès d'un élève en poste dans le grand hall d'accueil et de détente.
Tom, j'ai 25 ans. Ça fait un an maintenant que je suis recruté à la SNCF. Le centre de formation est très très bien. Ça permet d'avoir une période d'immersion convenable et permet de réviser tranquillement les cours qu'on a. Je pense que le fait d'avoir ces campus de formation-là permet de rajeunir un peu l'entreprise, de donner un peu une nouvelle dynamisme à l'entreprise.
Tom suit les cours de Lilian Philippe qui forme les agents qui interviennent sur les caténaires.
On a un petit peu tous les profils. Il y a beaucoup de personnes qui sont nouvellement embauchées dans l'entreprise. Et puis on a des reconversions aussi.
Il y a beaucoup de tensions sur le métier de caténériste.
Le métier de caténériste, et je pense globalement les métiers de l'équipement à la SNCF, c'est des métiers en tension. Ouais.
La formation, c'est une solution ?
Ça peut en être une. Après, je pense qu'il y a un côté, le côté pécunier, les pertes du statut à la SNCF, ça fait beaucoup de mal chez nous.
Alors là, on est, je commence dans ma salle préférée. J'aime beaucoup. Là, on est vraiment sur la formation en réalité virtuelle. Vous voyez qu'il y a des petites caméras en face de chaque stagiaire, ce qui permet également de constater la physionomie des stagiaires devant certaines situations à risque.
On est passé devant des salles d'examen. Est-ce que le fait qu'il y ait des tensions sur les recrutements, ça incite à avoir des examens plus faciles ?
Alors non, les examens ne sont pas plus faciles. Il n'y a pas de tolérance, on n'abaisse pas le seuil d'exigence. Ça, c'est sûr.
La DARES, direction ministérielle qui publie des études sur le thème de l'emploi, a identifié plusieurs raisons pour expliquer les difficultés de recrutement ces dernières années. Le manque de candidats, la rémunération, les conditions de travail y figurent. Jean-François Amadieu, professeur à Paris en Sorbonne et directeur de l'Observatoire des discriminations, en identifie une autre.
Il y a manifestement des demandeurs d'emploi qui ne sont pas assez attractifs. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les formations, bien sûr ça peut exister, mais ces candidats existent, ce sont des demandeurs d'emploi qui ne plaisent pas aux employeurs et donc ils vont faire l'objet de discriminations. Il y a environ 1 million de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Simplement, tous les testings qui ont été faits, les enquêtes du défenseur des droits confirment qu'avoir en effet plus de 50 ans est très pénalisant à l'embauche. Et il y a ainsi d'autres discriminations. Si vous songez aux femmes en situation d'obésité, elles rencontrent de fortes discriminations, là aussi identifiées par le défenseur des droits, et même dans les activités industrielles. Fin 2018, j'avais fait avec la Fondation des femmes un test par envoi de CV, justement pour des emplois, comme on dit, masculinisés. Et dans les emplois pourtant en tension, finalement, comme beaucoup de recruteurs continuent à ne pas vouloir une femme préférant un homme, eh bien, ça conduit là aussi à aggraver la tension. Quand vous additionnez toutes ces discriminations, il est incontestable que ça aggrave les tensions sur le marché du travail.
Est-ce que les entreprises commencent à faire évoluer leur recherche ?
Il y a évidemment des politiques qui changent, parce que maintenant le rapport de force a un peu changé. Il y a aussi la question des revalorisations salariales. Il y a beaucoup de secteurs où les rémunérations sont trop modestes. Les 3/4 ou 80% des minima des conventions collectives sont inférieurs au SMIC. Donc les entreprises ont commencé à prendre un peu la mesure du problème, mais c'est encore très partiel. Et sur les discriminations, les mauvais réflexes ont tendance à perdurer.
C'est pourtant par les difficultés de recrutement que le gouvernement justifie sa réforme de l'assurance chômage. La durée d'indemnisation va baisser de 25%, y compris pour les seniors, quitte à être rétablie au niveau actuel en cas de forte hausse ou si le taux de chômage dépasse les 9%. Une réforme saluée par le MEDEF, contestée par les syndicats.
Pénurie de main-d'œuvre en France, quand la balle change de camp. Un grand reportage de Paul Inglaise, réalisation d'Onatien Cahut.